Studio Tamani, voici nos informations en français.
Lundi 25 avril 2022, vous écoutez Studio Tamani, il est 8h à Bamako et à Sévaré. Mesdames, messieurs, bonjour, c'est l'heure de la matinale. Trois attaques simultanées ont visé hier dimanche l'armée malienne dans les régions de Mopti et Ségou. Dans un communiqué, l'état-major général des armées fait un bilan de 6 soldats tués et 11 assaillants neutralisés. Découverte d'un chantier à Gossi, près de l'ancienne emprise de Barkhane au nord du pays, les forces françaises accusent les militaires russes alors que l'armée malienne indique que ce charnier existait bien avant la rétrocession de cette base. Bientôt la fête de Ramadan, les préparatifs vont bon train dans la capitale. Cependant, les ateliers de couture affirment être handicapés par les coupures intempestives d'électricité. Voilà pour les titres, tout de suite les détails avec Sekou Gadjigo. Gagné Kanté assure la mise en onde. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. 6 morts et 20 blessés dans les rangs de l'armée malienne et 11 terroristes tués. C'est le bilan de 3 attaques simultanées contre les forces armées maliennes ce dimanche 24 avril 2022. Ces attaques ont ciblé au même moment les camps de Sévaré, de Bafo et Niono. Dans son communiqué, l'armée assure que la situation est sous contrôle. Les détails avec Maman Babakunta.
Dans son communiqué, l'état-major général des armées indique que c'était très tôt ce dimanche que les groupes armés terroristes, dans des actions désespérées, ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d'explosifs. Cela dans le but d'attaquer plusieurs bases militaires. À cet effet, les forces armées maliennes ont repoussé 3 attaques complexes terroristes respectivement au camp Amadou Balobo Meiga de Sévaré, au camp de Bafou et celui de Niono, précise les documents. La situation est sous contrôle et des dispositions sécuritaires sont renforcées dans toutes les emprises, précise la note. Les bilans provisoires de ces attaques simultanées font état de 6 morts et 15 blessés côté Fama au camp de Sévaré. 11 assaillants ont été tués dans les kamikazes et beaucoup de matériel militaire est récupéré. Au camp de Bafo, les Fama enregistrent un militaire blessé et un hélicoptère légèrement endommagé. À Niono, 4 soldats maliens ont été blessés et 2 véhicules endommagés, indique le document. L'état-major général des armées rappelle que ces actions de groupes armés n'entament en rien la détermination des forces armées maliennes à poursuivre leurs opérations.
Et l'armée malienne continue son offensive contre les groupes terroristes. Ainsi, dans le cadre des opérations Maliko et Keletigui, 29 terroristes ont été neutralisés, dont 2 leaders et 64 suspects arrêtés la semaine dernière. Ce bilan est présenté dans un communiqué par les forces armées maliennes. Ces actions militaires ont eu lieu dans plusieurs localités du pays. Lala Aïcha Walet Info.
18 assaillants sont neutralisés, des armes saisies et 6 autres motos calcinées. Tel est le bilan d'une attaque contre les Fama à Homburi le 19 avril dernier. Dans son communiqué, les Fama affirment avoir vigoureusement réagi. Mais les soldats maliens déplorent quand même un mort et 2 blessés et un engin endommagé. 64 autres suspects terroristes identifiés ont été mis à la disposition de la gendarmerie et un a succombé à ses blessures, poursuit les mêmes communiqués. L'armée précise par ailleurs que dans le secteur de Moura, cercle de Djenné au centre du pays, les Fama ont détruit 5 motos des assaillants dans un plot logistique à Kabiou. 11 terroristes, dont 2 leaders et 5 poseurs d'engins explosifs, ont été également neutralisés dans la région de Ségou et de Douanza par les Fama. Cette offensive de l'armée contre plusieurs sanctuaires terroristes a permis de détruire 3 engins explosifs improvisionnés, saisis d'armes et de matériel récupéré, ainsi 5 suspects interpellés, dont une femme nigérienne. L'état-major des armées informe que des recherches sont en cours pour retrouver les autres de l'incendie de la sous-préfecture et des locaux des services des eaux et forêts de Molobala, région de Kuchala, la semaine dernière.
Explication signée Lala Aïcha Walet Imfa. Vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Depuis vendredi, l'armée française a accusé les militaires russes d'avoir mis en scène un chantier, un charnier plutôt, non loin du camp de Gossi. Quelques heures après, les forces armées maliennes ont annoncé dans un communiqué avoir découvert des dépouilles en état de putréfaction avancée près de la base que l'armée française lui a restituée récemment. L'état-major général des armées déclare avoir ouvert une enquête en vue d'établir toute la lumière sur le dit charnier. Draman Maïga nous fait le point.
C'est durant une reconnaissance des alentours du camp de Gossi que l'état-major général des armées explique avoir découvert le charnier en question. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux ce week-end, il fait état de la découverte des dépouilles en état de putréfaction la nuit du mercredi 20 avril 2022. Les FAMA entendent ouvrir une enquête en vue d'établir les faits. L'état-major général des armées déplore le fait que les FAMA fassent méticuleusement l'objet de communications visant à fourvoyer leur montée en puissance et altérer leur image, poursuit le communiqué. Quelques heures plus tôt, l'armée française avait annoncé avoir filmé l'enterrement de ses corps à l'aide d'un drone positionné non loin de la base de Gossi. Elle soutient aussi l'hypothèse d'un complot à son encontre pour faire croire qu'elle a laissé ce charnier derrière elle. Rappelons que la force Barkhane a remis officiellement le camp de Gossi aux forces armées maliennes lors d'une cérémonie il y a moins d'une semaine.
Et l'association malienne des droits de l'homme AMDH demande l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur cette affaire. Selon l'AMDH, la situation à Gossi est confuse. Ainsi, ses responsables invitent la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, à mener une enquête indépendante. Écoutons Brahima Konaté, un des responsables de l'association. Il est joint au téléphone par Sali Sissoko.
L'état des corps est en putréfaction. Ça veut dire que le moment de l'assassinat des personnes concernées est très proche du retrait des forces Barkhane. C'est encore très proche de l'arrivée de la force malienne. Alors, dans de telles situations, il est très difficile de savoir qui est vraiment à l'origine. Mais au regard de la situation, au regard des équipements que la force Barkhane détient, il aurait dû savoir et intervenir à temps pour que ce massacre n'ait pas lieu. La mission étant ici doit appuyer toujours dans le cadre d'une enquête indépendante les autorités de la justice pour que la lumière soit faite. Nous pensons que si les deux forces conjuguent leurs efforts, ils vont parvenir à établir les causes de l'assassinat des personnes concernées et de situer les responsabilités afin que la justice puisse passer.
Restons toujours dans ce même registre. Le Parlement nigérien a autorisé vendredi dernier le redéploiement de Barkhane et Takuba sur son territoire. Des analystes estiment que ce déploiement de la force Barkhane et Takuba au Niger ne serait pas sans conséquences pour le Mali. Pour Dr Ali Tunkara, directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, ce départ des forces étrangères pourrait affaiblir l'armée malienne sur certains aspects, notamment le partage de l'information. Il est joint par Sita Sidibé.
Quand on regarde l'évolution de la situation sécuritaire de décembre à maintenant, on se rend compte qu'entre Bamako et Niamey, les coopérations conjointes avec l'Ukraine, à la suite de la bruit diplomatique entre Bamako et Paris, laquelle bruit Niamey s'est invité dans le jeu. Donc naturellement, un tel redéploiement de forces européennes, Takuba et forces Barkhane, aurait comme impact négatif sur l'action militaire malienne, notamment en termes de partage d'informations et surtout sur cette possibilité de mener des patrouilles conjointes dans l'Itako-Gourma. Donc clairement, ça va handicaper le Mali en termes de victoire à remporter sur l'ennemi qui vont souffrir du non-partage des informations.
À l'instant, c'était Dr Ali Tunkara, directeur du Centre d'études sécuritaires stratégiques au Sahel. 8h08 à Bamako. Depuis le début du mois du Ramadan, les heures de travail ont été réorganisées dans les services publics. Si pour certains, cette réorganisation n'impacte pas le travail, pour d'autres, ça rend la journée beaucoup plus longue. Notre reporter Kwan Diara s'est rendu dans certains services, suivant son reportage.
Il est 8h à la mairie centrale de la commune 3 du district de Bamako. L'ambiance est morose, mais tous les agents sont déjà sur place. Mais ici, on regrette le non-respect des heures de descente. Kanyi Sanogo, secrétaire général de la mairie.
Bon, réellement, que ce soit cette réorganisation ou pas, il y a certains agents qui sont peut-être réfractaires à la ponctualité. Et voilà, et du coup aussi, certains agents, après midi, ils sortent et ils ne reviennent plus. Voilà, que ce soit le mois de carême ou pas, bon, ce constat quand même est là.
À la Direction nationale de l'enseignement normal, les responsables sont exigeants sur le respect des horaires de travail fixés par les autorités. Le chef de section administration, Ousmane Guindo, affirme que tout le monde est tenu d'attendre 16h30 avant de quitter le service.
Ici, à l'éducation, à la Direction nationale de l'enseignement normal, personne ne quitte avant 16h30 parce que les directeurs tiennent beaucoup au respect du temps réel du travail. Je peux sans hésiter dire que personne ne quitte ici avant 16h30.
Pour mieux appliquer le respect de ces engagements, certains responsables de service envisagent de sanctionner ceux qui ne respectent pas les horaires de descente.
À moins d'une semaine de la fête de Ramadan, les ateliers de couture sont pris d'assaut par les clients. Cependant, les tailleurs déplorent les coupures intempestives d'électricité. En ce moment, ils estiment que la situation porte un coup dur à leur travail. Notre reporter Sita Sidibé s'est rendu dans certains ateliers de couture.
Nous travaillons péniblement durant ces coupures et nous ne savons pas comment gérer ces problèmes, regrettent certains tailleurs. Malgré cette situation, ils confirment avoir reçu de nombreux clients.
Par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, avoir de la clientèle dépend de la qualité de ton travail en tant que couturier. Nous avons trop de difficultés avec la coupure d'électricité. La charge est aussi lourde car chacun a besoin de l'électricité.
Le marché est abordable, mais pas comme les autres années. Et puis, nous avons des problèmes d'électricité.
Nous recevons toujours des clients malgré les différentes difficultés que nous avons.
Des clientes confirment que leurs tailleurs respectent les rendez-vous et savent créer des modèles tendance avec moindre coût. Donc, elles gardent espoir qu'elles auront leurs habits d'ici la fête.
Nous avons l'habitude de venir ici coudre nos habits depuis toute petite, toute la famille d'ailleurs. C'est un très bon tailleur. Les rendez-vous sont respectés. Et puis, il coûte très bien les modèles. C'est ça notre motivation. Sinon, nous n'allons pas quitter Burkasso Mougou pour venir jusqu'à Médina.
Cette fête de Ramadan intervient dans une période de crise économique que nous traversons où le pays est sous la sanction de la CEDEAO.
En cette veille de fête, des achats d'habits neufs et d'autres accessoires se multiplient. Les marchés et les boutiques refuges du monde, c'est aussi la période choisie par des bandits et autres voleurs pour dérober les biens et argent d'honnêtes citoyens. Face à cette situation, quelles dispositions doivent prendre les clients ou encore les autorités? Mamadou Samasekou nous en dit plus.
Ils sont nombreux les citoyens qui regrettent le banditisme qui prend de l'ampleur à l'approche des périodes de fête. Pour Salif Guindo, il est difficile d'échapper à ces bandits.
C'est pratiquement la même chose chaque année en ces moments de préparatifs de nos traditionnelles fêtes. Une chose est sûre, ces voleurs ne sont autres que nos propres enfants ou frères. Les citoyens ne peuvent que prendre ces précautions. Le voleur étant ce qu'il est, il trouve toujours le moyen de surprendre.
Madame Keïta est mère de famille. Elle demande à ses sœurs de beaucoup faire attention. Aux autorités, elle préconise plus de patrouilles.
Que les femmes fassent très attention quand elles sont dans le marché, qu'elles ferment bien leurs sacs, qu'elles évitent d'adresser la parole aux premiers venus, qu'elles se consacrent seulement à leurs achats. Quant aux services de sécurité, qu'ils prennent des dispositions nécessaires pour réduire la marge de manœuvre de ces bandits.
Concernant les dispositions prises par la Direction régionale de la police, les responsables affirment qu'ils vont nous revenir pour plus de communication.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité hors de Bamako en quelques brèves. 4 personnes enlevées lundi dernier à Boura dans le cercle de Yorosso ont été libérées ce jeudi 21 avril. De sources locales, ces ex-otages étaient en mission pour le compte d'une société de téléphonie mobile lorsqu'ils ont été enlevés à la frontière Mali-Burkina. À présent, ils sont tous rentrés sains et saufs. 3 corps sans vie ont été découverts samedi dernier 23 avril par des bergers à une dizaine de kilomètres du village de Bazi Aoussa dans le cercle d'Ansongo. Les victimes sont tous de cette localité. Informées de la situation, la société civile et les autorités locales sont parties récupérer les corps, rapportent des sources locales. Toutefois, les circonstances du drame restent inconnues. À 8h passées de 14 minutes se referme cette édition qui vous a été présentée par Sekou Gadjigo, mise en onde Gagné Kanté. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, vous pouvez la retrouver sur notre site studiotamani.org ou en appelant sur la plateforme Viamo au 37 321.